franceinter.fr.
Voulez-vous que je vous dise, j'ai passé ma semaine dans le calendrier républicain à cause de vous, Alain Baraton.
Et pourquoi donc ?
Parce que vous m'avez demandé d'y trouver une trace de la giroflée.
Et alors ?
Point de trace.
Eh bien, c'est normal parce qu'elle apparaît sous un autre nom, celui de bâton d'or. C'est ainsi qu'elle était désignée au XVIIIe siècle. Dans ce calendrier républicain que vous connaissez bien, elle est célébrée le 13e jour de Floréal, ce qui correspond. Je vous pose la question.
C'est le 2 mai.
Bravo ! Alors là, je suis quand même assez épaté.
Mais évidemment, parce que je vous dis que j'ai passé ma semaine dedans.
Eh ben oui, je vois. Alors, cette plante, magnifique d'ailleurs, est originaire de l'Europe méridionale et elle fleurit du printemps à l'automne. Elle est le plus souvent jaune ou orange, mais il en existe aussi des roses, blanches, rouges et de bien d'autres couleurs encore. Et là, vous êtes supposé dire, malheureusement,
ouais, mais je vous
elle
regarde
n'est plus guère employée dans nos jardins.
Et malheureusement, là, mon cher Alain, elle n'est plus guère employée dans nos jardins.
Et cela est dommage,
oui.
Car elle est de culture simple et se plaît dans toutes les terres, même celles qui sont pauvres et rocailleuses.
Voulez-vous que je vous dise, elle se plaît aussi en pot.
Oui, et elle peut donc facilement agrémenter terrasses et balcons.
Alors, on vient d'en parler, elle était à la mode au XVIIIe siècle.
Pour sa beauté, bien sûr, mais aussi pour ses multiples médicinales, et cela devrait vous intéresser, Laurent Delmas.
Comment donc ?
On disait de cette plante qu'elle était cordiale. Les fleurs en infusion...
Ah, c'est marrant, ça.
Ah oui, c'est joli comme terme.
Ah, oui.
Les fleurs en infusion apaisaient, paraît-il.
Je vais vous en offrir des plantes cordiales.
Oui.
Ça prendrait bien un petit cordial, mais oui. Ça vient pas de là.
Je disais donc que les fleurs en infusion apaisaient, paraît-il, les douleurs, facilitaient les accouchements et, j'adore l'expression, excitaient les urines.
Est-ce qu'il y a des points communs entre la giroflée et le clou de girofle ?
Eh bien oui. La giroflée est une épice qui produit un bourgeon qui, après dessiccation du bourgeon, dessèchement si vous préférez, donne le fameux clou de girofle si apprécié en cuisine.
Le clou de girofle, pas le clou de girofle.
Le clou de girofle, oui.
Vous avez dit le clou de girofle.
Ça serait trop long à mettre dans la casserole, le clou de girofle.
Oui. Mais c'est marrant cette obsession que vous avez pour la girafe, parce que hier j'étais avec Alain Bougrain-Dumoulin.
Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais qui me disait que vous vouliez absolument qu'il fasse une chronique sur la girafe.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, nous étions au Mans pour célébrer les 20 ans de l'Arche de la Nature au Mans. 450 hectares de terre pratiquement en plein cœur de la ville, une ferme, une maison forestière, un endroit tout entier dédié à la nature. Et il est vrai qu'Alain Bougrain-Dubourg et moi-même étions heureux de l'accueil que nous avons reçu. L'occasion de dire à vraiment tous ceux qui habitent le beau département de la Sarthe d'aller visiter ce lieu qui est vraiment un lieu délicieux.
Et alors,
vraiment. Et un jardin potager
magnifique. Il s'est approché d'un animal ?
Oh, d'un alpaga, qui est une sorte de lama à tête ridicule. Et
non.
J'ai trouvé une air bête à cet alpaga.
C'est-à-dire que il avait un air bête, mais c'est peut-être pas tous les alpagas, c'était peut-être cet alpaga-là.
Oui, mais il y a des animaux qui respirent moins dans l'intelligence que d'autres, voyez-vous.
Oui.
Et celui-ci était particulier, je lui ai dit bonjour, il s'est méfié de moi. Alain Bougrain-Dubourg connaît beaucoup mieux les bêtes que moi, il s'est approché, lui a dit bonjour avec un grand sourire. Je vous le confirme, l'alpaga, comme le lama, crache.
Il va cracher dessus.
Ah oui, mais c'était amusant.
Et donc, comme dirait Aurore Vincenti, il a alpagué.
Oui, bien sûr. Non, mais ça vient peut-être de là.
Mais c'est évident.
On revient à nos points communs entre la girofle et le clou de girofle.
Eh bien, le clou de girofle dégage tout simplement une senteur quand on le cuisine qui ressemble effectivement au parfum de la giroflée. Ce n'est pas plus compliqué.
C'est ça le rapport ?
Oui.
D'accord.
Elle est déçue.
Oui,
je vous sens déçue, Patricia.
Oui, vous vous attendiez peut-être à quelque chose de plus puissant, peut-être.
Oui, bon. Il y a un langage, on dit que les fleurs ont un langage, j'imagine que la giroflée en a un.
Eh bien oui, quand vous recevez un bouquet de giroflées, ce qui est quand même relativement rare, la personne qui vous a offert ce bouquet veut vous signifier « je voudrais être près de vous ». Tout un programme.
Pourquoi ne fait-on pas la guerre aux chenilles processionnaires le long des autoroutes, vous demande Brigitte.
Parce que les autoroutes ne pensent qu'au profit et cela est lamentable. Justement,
les autoroutes ne pensent pas.
Justement, nous faisions la réflexion avec toujours Alain Bougrain-Dubourg en allant au Mans. Il s'avère qu'il y a...
Vous allez vous paxer bientôt.
Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Les chenilles processionnaires remontent vers le nord, suite au réchauffement climatique, mais aussi à cette mode qu'il y a eu de planter des pins le long des autoroutes ou dans les jardins privés. Pour que la chenille puisse survivre et se déplacer, il faut que l'arbre hôte existe, donc le pin. Et vous avez quantité de pins où on voit des nids à portée de main qui sont là et on ne supprime pas les nids. Comment voulez-vous ensuite que la colonisation ne se poursuive pas vers le nord ? Donc quand on connaît le prix des péages, effectivement, on pourrait être en droit d'exiger au moins que ces sociétés d'autoroutes contribuent à l'équilibre de l'environnement en détruisant les nids de chenilles dans les arbres. Il y en a d'une quantité phénoménale.
Peut-on tondre? Peut-on tondre très court un gazon que l'on vient de semer? Voudrait savoir Vanessa.
Non, l'art du semis, et je parle bien d'art, demande quelques règles. La petite graine se germe et immédiatement une plantule apparaît. C'est cette petite tige verdâtre, claire, magnifique d'ailleurs, qui n'a qu'une idée en tête, aller vers le soleil. Et pendant que cette petite herbe se développe, des racines tentent timidement d'apparaître. Mais il faut que l'herbe ait le temps, bien entendu, de s'implanter. Et si on tond trop rapidement, eh bien on risque d'arracher cette herbe qui n'est pas encore solidement ancrée. La tradition veut, la coutume, le professionnalisme, que l'on ne tonde pas un gazon qui vient d'être semé tant qu'il n'a pas atteint au minimum 12-15 cm de hauteur. Après, d'accord, on pourra faire ce que l'on veut. Un petit conseil en passant. Arrêtez aussi, quand vous venez de semer un gazon, de l'arroser de manière inconsidérée. Il faut arroser pour que les graines, bien entendu, germent et donnent cette couleur verte aussi agréable.
Mais point
trop. Oui, parce qu'il faut que les racines descendent en profondeur. Si vous arrosez, l'eau est à la surface et les racines vont y rester. En faisant un petit peu preuve d'autorité au niveau de la plante, elle sera dans l'obligation, si elle veut s'alimenter, de plonger dans les profondeurs de la terre les racines. Et ainsi,
sinon, ça la fragilise.
Et oui, elle résistera beaucoup mieux aux périodes de sécheresse s'il y en a cette année. Et je vous rappelle que j'ai prédit un été caniculaire.
Faire autorité auprès de la plante. Je retiens cette histoire. Oui, c'est magnifique.
C'est beau, hein?
Oui, oui, circuler, il n'y a rien à voir.
Est-il vrai que les plantes sont sensibles à la musique classique? Voudrait savoir Louane.
Alors, je me suis longuement posé la question, car il paraîtrait que le rock les indisposerait, ou le métal, n'en parlons pas, mais qu'elles apprécieraient tout particulièrement Mozart, Bach, voire Beethoven. Eh bien, nous avons tenté à verser une expérience. Nous avons mis de la musique, et effectivement, apparemment, les plantes s'en portent mieux. Et j'ai compris l'explication, j'ai trouvé la solution. Ce ne sont pas les plantes qui aiment la musique, ce sont les jardiniers. Et quand un jardinier travaille dans de bonnes conditions, il est heureux. Et quand un jardinier est heureux, son travail est de meilleure qualité.
Florence voudrait savoir quelle est la meilleure période pour tailler un fautinia.
Oui, eh bien on attend. Le fautinia, vous le connaissez, c'est cette plante que l'on voit un peu partout fleurir, sur les talus dans les villes, le long des autoroutes. Et la particularité du fautinia, c'est que les feuilles récentes, les nouvelles feuilles, sont rouges, rouge cuivre. Et si on taille le fautinia maintenant, on va débarrasser la plante de son aspect décoratif. Donc on attendra au moins 2 ou 3 mois encore avant de tailler pour justement profiter de ce côté rouge cuivre merveilleux.
Christine vous pose cette question. Quels sont les meilleurs arbustes pour faire des taupières?
Les taupières, oui. Ne pas confondre taupière et taupinière. Laurent Delmas, un commentaire sur la taupinière?
Le topinambour non plus. Non, merci beaucoup. Vraiment pas.
Réponse judicieuse. Les taupières sont des arbustes taillés de manière, j'allais dire, parfois drôle, parfois architecturale, parfois géométrique. Le houx, remarquable pour la taupière. Le laurier du Caucase peut également parfois créer des taupières, mais attention, les feuilles sont trop grosses. Le buis, bien évidemment. L'if, la star absolue de la taupière. Donc en numéro 1 sur le podium, donc l'if. En numéro 2, le buis. Et en numéro 3, le houx, si vous êtes capable.
Mais c'est ça, c'est un vrai boulot. Hein.
C'est
artistique.
Oui, mais c'est de la patience. Et puis, 1000 fois, vous reviendrez sur l'ouvrage. Eh bien, on y est avec la taupière, effectivement.
Vous avez un conseil à nous donner pour terminer.
Eh oui, il est sorti le 6 avril, Terrarium. C'est cette mode aujourd'hui d'avoir des petits jardins dans des petites serres, dans des bocaux, dans des aquariums, c'est magnifique. Eh bien, la jeune femme qui nous en parle, Mathilde Lelièvre, sait de quoi elle parle. Elle est architecte décoratrice. Son ouvrage est merveilleux. Vraiment, il est aussi plaisant à lire qu'agréable à consulter. Il est publié chez Solar. Je donne le prix. J'aime bien donner les prix, on arrondit.
Mais c'est toujours quand vous faites des cadeaux, vous nous donnez les prix.
À peu près 16 euros, j'adore ça. J'avais un grand-père qui mettait le prix des victuailles sur la table quand il recevait du monde.
C'est vrai?
C'est chic, non?
Chic, très chic.
Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que demain, vous serez à nouveau avec Alain Beaugrain-Dubourg, puisque vous partez ensemble à Autun, où se tient le Salon du Livre, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est un petit peu après le Creusot.
Vous partez en
voiture.
Et vous êtes en train de dire aux habitants de la région que demain, ils auront l'immense bonheur de vous voir, vous,
oui,
Beaugrain-Dubourg, et moi-même,
mais surtout vous
ensemble.
Et Alain Beaugrain-Dubourg, ensemble.
Oh bah, quelle joie, mais quelle joie.
Inséparable.